Vacances, le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Cinérama.
Y a des soleils, y a des nanas, ta-la-di-la-da.
L'été.
On va s'enfourrer jusque là, ta-la-di-la-da-da.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Des chroniques, des blind tests et des séries sur le cinéma.
Eh bien, je dois reconnaître que vous n'êtes pas comme je m'étais imaginé.
C'est une blague.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, l'été, avec une émission qui fait moins de cas de l'actualité, et c'est pourquoi nous allons, durant eh bien, toute cette période estivale, vous proposer deux séries. La première va concerner les réalisateurs qui sont aussi des compositeurs de musique, et puis la seconde, eh bien, nous parlerons des films hollywoodiens qui reposent sur des faits divers. Et puis, il sera quand même question des sorties, parce que les films continuent de sortir pendant tout l'été. Nous parlerons du Passage, film très intéressant autour des migrations ou des migrants. Nous parlerons de Kill Bill, The Whole Bloody Affair de Quentin Tarantino et puis de La Chaleur, dernier film de Stéphane Desmoustiers. Mais nous commençons avec une des séries de l'été, les faits divers qui ont nourri les grands films hollywoodiens. C'est une série que j'ai pu préparer grâce à l'ouvrage de Esther Hervey, Hollywood and True Crime Story. Et pour commencer cette série, eh bien, il fallait prendre un grand film qui a marqué toute une génération, voire deux, voire trois. C'est Les Dents de la Mer.
Hollywood and True Crime Stories.
Mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive ?
Les faits divers qui ont nourri le cinéma.
Il est arrivé quelque chose de grave.
Une série inspirée de l'ouvrage d'Esther Hervey, publié aux éditions du Rocher.
Merci, c'est très gentil. Je n'attendais pas tant d'égards.
Deux notes de musique, un mi, un fa, répétées en boucle, d'abord lentement, puis s'accélérant jusqu'au coup de grâce en 1975. Ces deux notes, composées par John Williams, ont suffi à vider les plages américaines et à traumatiser des générations de baigneurs. Avec Les Dents de la Mer, le jeune Steven Spielberg inventait le blockbuster de l'été et transformait le grand requin blanc en un monstre sanguinaire absolu, une machine à tuer dotée d'une vengeance presque divine. Mais derrière la fiction hollywoodienne et le squale mécanique, surnommé Bruce, se cache une réalité historique bien plus terrifiante, une série d'attaques qui, 60 ans avant le film, a transformé les côtes américaines en un véritable terrain de chasse.
C'est le premier été que vous passez ici ?
Le premier, oui, pourquoi ?
J'aimerais que vous soyez conscient que Amity est une station balnéaire et que nous, on baigne dans le dollar. Si le public ne peut plus se baigner chez nous, il est fichu de se rabattre sur les plages de Cap Cod, New Hampton, Long Island.
C'est pas une raison pour nous servir du hachis parmentier.
Mais nous n'avons jamais eu ce genre de problème à Amity.
Et l'état du corps de la fille, alors ?
Peut-être une hélice.
Je dois reconnaître qu'en effet, c'est une hypothèse. Oui,
ce n'est pas ce que vous m'avez dit au téléphone.
Je me trompais. D'ailleurs, je rectifierai le rapport.
Vous vous en tiendrez à cette
version ? Il n'y en aura pas d'autre.
Lorsque le film sort sur les écrans, il bouscule le cinéma mondial. Spielberg filme la terreur à hauteur de vague. Alors on ne voit pas le requin pendant la première moitié du film. C'est un choix technique imposé par les pannes constantes du robot, mais qui s'avère un coup de génie artistique. L'invisible est donc bien plus effrayant. Le shérif Brody, le scientifique Hooper et le vieux marin Quint s'embarquent sur l'orca pour traquer un monstre de plus de 7 mètres de long qui terrorise la station balnéaire d'Amity. Alors le film présente le squale comme un tueur territorial, obstiné, qui s'en prend délibérément à l'homme. Une image qui va coller à la peau de l'animal pendant des décennies. Pourtant, Peter Benchley, l'auteur du roman dont s'inspire le film, avouera plus tard qu'il n'aurait jamais écrit son livre s'il avait connu les véritables mœurs des requins. Alors d'où est venue son inspiration ? La véritable histoire, ce sont les juillets de sang dans le New Jersey. Pour comprendre, il faut remonter le temps. Nous sommes en juillet 1916. Les États-Unis traversent une vague de chaleur étouffante et une épidémie de poliomyélite pousse les citadins à fuir les villes pour chercher la fraîcheur sur les plages du New Jersey. Alors à cette époque, l'océan est vu comme un espace de loisirs sûr. La science affirme même que les requins n'attaquent pas l'homme dans les eaux tempérées. Tout bascule le 2 juillet à Beach Haven, Charles Vincent, un jeune homme de 25 ans, est attaqué à quelques mètres du bord. Malgré l'intervention des sauveteurs, il meurt d'une hémorragie massive. Hein. Et cinq jours plus tard, à 70 km de là, à Spring Lake, Charles Bruder, un groom de 27 ans, subit le même sort. La panique commence à s'emparer de la côte. Mais le pire, eh bien, reste à venir. Hein. Et c'est là que la réalité dépasse la fiction de Spielberg. Le 12 juillet, à Matawan Creek, ce n'est pas l'océan, c'est un cours d'eau douce, une rivière hein, sinueuse située à plusieurs kilomètres de l'Atlantique. Un jeune garçon de 11 ans, Lester Stilwell, se baigne avec ses amis quand il est entraîné sous l'eau. Un commerçant de la ville, Stanley Fisher, plonge pour retrouver le corps. Il est attaqué à son tour, sous les yeux de la foule et succombe à ses blessures. À un kilomètre en aval, le jeune Joseph Dunn, 14 ans, est mordu à la jambe mais parvient à être sauvé in extremis. En moins de deux semaines, quatre personnes ont perdu la vie. La chasse aux monstres est ouverte. Le 14 juillet, un grand requin blanc de 2,5 mètres est capturé dans la baie de Raritan. Et en ouvrant son estomac, on y découvre des restes humains. La psychose prend fin, mais le mythe du mangeur d'hommes, lui, est né.
On est resté 8 jours sans être porté manquant. Aux premières lueurs de l'aube, les requins commencent à rôder. Alors on a formé des genres de groupes compacts. Comme les carrés qu'il y avait dans les batailles dans l'ancien temps. Vous voyez ce qu'ils ont fait à Waterloo? Alors on s'était dit, si un requin approche de trop près, le premier rang se débattra dans l'eau, il gueulera, il se remuera, des fois ça suffit, le requin fout le camp. Mais des fois ça marche pas, il reste là. Si vraiment il s'incruste, alors là, attention, il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi ça a des yeux. Sans vie, sans rien, une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Quand il s'approche de vous, le requin, il n'est pas vivant. Jusqu'à ce qu'il vous happe. Là, ses petits yeux noirs, ouh, ils deviennent blancs. Et alors, on entend des cris terribles qui vous percent les tympans. Et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule, qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces.
Alors, en transposant cette tragédie, Peter Benchley et Steven Spielberg ont opéré plusieurs changements majeurs. Hein. Dans le film, l'action se déroule sur une île fictive, Amity, mais le déni des autorités locales, incarné par le maire qui refuse de fermer les plages pour ne pas ruiner la saison touristique, est calqué mot pour mot sur l'attitude des hôteliers et des politiciens du New Jersey en 1916. La grande différence réside dans l'identité du tueur. Le film met en scène un grand requin blanc gigantesque. Or, les biologistes marins s'accordent aujourd'hui à dire que le coupable des attaques de la rivière de Matawan Creek était très probablement un requin bulldog. C'est la seule espèce capable de remonter et de survivre de longs jours dans les eaux douces. De plus, le film prête au squale une intelligence et une rancœur quasi humaine, alors qu'en 1916, il s'agissait d'un concours de circonstances dramatiques, une surpopulation de baigneurs combinée à une anomalie climatique.
Écoutez, est-il vrai que la plupart des gens attaqués par un requin le sont sous un mètre d'eau à environ 3 mètres de la plage?
C'est exact.
Et avant que les bains de mer aient été à la mode comme aujourd'hui, et de ce fait, avant que les requins n'aient su où trouver pâture, est-il vrai que ces attaques restaient ignorées?
C'est vrai.
Quant à ce requin qui se déplace seul, comment c'est son
nom
déjà?
Rogue.
Rogue, ouais. Ce gaillard va poursuivre sa chasse le long de la plage où la table est excellente jusqu'à ce qu'il ait épuisé les stocks, c'est ça?
Ça, c'est la territorialité. C'est d'ailleurs une théorie qui a mon agrément.
Alors, Les Dents de la Mer reste un monument du cinéma, hein, mais son héritage est lourd. Il a déclenché une vague de pêche punitive qui a décimé les populations de requins à travers le monde. Et 50 ans plus tard, eh bien, revoir le film de Spielberg, c'est apprécier un immense moment de mise en scène, hein, évidemment, tout en se souvenant que le véritable prédateur des océans n'est pas celui qu'on croit. La semaine prochaine, nous explorerons les frontières du paranormal et de la psychologie avec un classique des années 80 qui a terrifié des millions de spectateurs, L'Emprise. Allez, deuxième série estivale pour vous. Elle est beaucoup plus musicale, hein, puisque nous allons parler des réalisateurs qui sont aussi des compositeurs de films. Et c'est Guillaume qui nous propose cela. Et il y a un réalisateur qui compte beaucoup pour lui, c'est John Carpenter.
Merci, monsieur, c'était très bien. C'était très bien. C'est de la bouillie, tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
Il existe une phrase que l'on lit systématiquement dès que l'on évoque John Carpenter. C'est un réalisateur qui compose lui-même la musique de ses films. Alors, la formule est exacte, mais elle est réductrice, hein, car elle laisse entendre qu'il serait un cinéaste doublé d'un musicien. Chez Carpenter, c'est un peu plus compliqué. La musique est le prolongement naturel de la mise en scène. À l'origine, hein, il y a pourtant une contrainte très prosaïque, c'est-à-dire l'argent. Les premiers films de Carpenter disposent de budgets minuscules. Il faut donc économiser partout, y compris sur la musique. Alors, fils justement d'un professeur de musique, il s'installe donc derrière un clavier, instrument économe par excellence, et va faire de cette limitation un vrai langage. À l'image de sa mise en scène, en apparence simple mais très réfléchie et savamment construite, il va simplifier plutôt que démontrer, ne conserver que ce qui produit un effet immédiat sur le spectateur et ainsi le marquer directement et durablement. Car, comme on l'a dit, Carpenter utilise la musique comme élément ambiant et narratif supplémentaire. Avec ce thème d'Halloween, Carpenter écrit moins une mélodie qu'un comportement. Quelques notes, une pulsation régulière, un motif obstiné qui revient sans cesse et qui dépeigne plus la nature de Michael Myers et de la psychose qui l'entoure, qui n'explique sa psychologie. Myers est un personnage qui ne court jamais, ne s'énerve pas et ne parle jamais. Par contre, il avance inlassablement, tel le croque-mitaine qu'il l'est. La musique progresse avec la même froideur, la même régularité et la même tension. Beaucoup de compositeurs auraient cherché à nous faire peur. Carpenter, lui, installe la certitude pour le spectateur que le mal continuera d'avancer, quoi qu'il arrive, jusqu'au climax. Cette philosophie irrigue déjà Asso, son film précédent, son western moderne à peine déguisé avec son commissariat qui remplace le fort assiégé, les gangs qui remplacent les tribus indiennes et une menace qui semble infinie. Alors une simple ligne de basse obstinée, quelques accords synthétiques et voilà un rythme hypnotique entre pulsation primaire du combattant et répétition fantomatique des assaillants innombrables. La musique est telle, cette vague qui revient sans cesse frapper la même digue jusqu'à l'épuisement des gens coincés dans le commissariat. À mesure que le motif se répète, nous ressentons physiquement cette sensation d'encerclement. Là encore, Carpenter ne cherche pas l'effet musical, il cherche l'effet dramatique. On comprend aussi la marque de fabrique de Carpenter qui retire tout ce qui pourrait distraire le spectateur de l'essentiel, allant directement à l'épure. Cette économie de moyens atteint une forme de perfection dans le thème de New York 97 en 1981 qui devrait être lourdement associé à Snake Plissken, son anti-héros charismatique, libertaire et supposément violent, mais qui est étonnamment mélodique. Les nappes électroniques, la pulsation régulière, les sonorités très métalliques, la ville est devenue une prison à ciel ouvert et vue à travers des yeux à la fois mélancoliques et méfiants. Et la musique ne vient pas illustrer les images, mais résume d'entrée le décor à la vision politique désabusée de son anti-héros, parfait alter ego de son réalisateur. Peu de réalisateurs justement ont compris à ce point que la musique pouvait être un un outil de narration. Et c'est peut-être cela, hein, au fond, qui distingue John Carpenter de tant d'autres cinéastes. Il ne considère jamais, hein, la bande originale comme un habillage destiné à renforcer les émotions, mais il la traite comme un élément de mise en scène au même titre que le cadrage, le montage ou la lumière. Voilà, hein, pourquoi ces partitions paraissent si indissociables de ces films. Elles sont déjà contenues en elles. La semaine prochaine, nous verrons comment l'aspect plus bluesy et rock'n'roll du réalisateur va accompagner un de ses thèmes chers, la défiance envers l'ordre établi et la rébellion envers un système déshumanisant.
Parlions de John Carpenter, compositeur également des bandes originales de ses films. Allez, c'est maintenant le moment de parler de l'actualité du cinéma, les films qui sortent sur vos écrans durant cet été. Et nous allons parler de La Chaleur, adapté du roman de Victor Gestin. La Chaleur transforme un simple été au camping en un thriller psychologique où la canicule devient aussi oppressante que la culpabilité.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Après le très réussi et complexe à réaliser L'Inconnu de la Grande Arche, hein, qui avait reçu notamment le César des meilleurs effets visuels pour sa reconstitution des années 80, Stéphane Desmoustiers, le frère de l'actrice, hein, Anaïs Desmoustiers, nous gratifie un an plus tard d'un film d'été, autrement dit un film de plage. Mais avec La Chaleur, on n'est ni dans une comédie à Les Bronzés ou Brise de Nice, ni même dans Make Two My Love, hein, mais dans un drame noir et léger à la fois, un thriller en tongs, comme l'a nommé son réalisateur.
C'était bien hier soir ? T'es rentré tôt ?
T'as un copain d'Oscar ? Il a pas dormi là. Je sais pas où il est. Si tu veux, tu peux l'attendre ici.
La légèreté tient moins au sujet qu'à la mise en scène, un très dépouillé qui assume pleinement son économie de moyens. On sent dans l'image qu'il y avait un petit budget, hein, qu'il a fallu aller vite en tournant avec des amateurs. Mais n'est-ce pas ce qu'il y a de mieux quand il est question d'adolescents, les faire jouer eux-mêmes. Nous suivons Marouane, un jeune homme qui n'a pas encore 18 ans et qui se traîne en t-shirt quand tout le monde se montre torse nu sur la plage des Landes, aux abords du camping choisi par ses parents. Les journées semblent s'écouler entre la plage écrasée par la chaleur et les soirées alcoolisées dans le club ou sur le sable. Le film ne déroge pas à la règle du film de plage, au point que l'obsession estivale surgit chez le copain de Marouane, trouver une fille et faire l'amour par tous les moyens. Lui estime qu'il le pourra, alors que, à bien y regarder, Marouane paraît chétif tandis que lui est en surpoids. Mais il ne laisse pas tomber, hein, tout le contraire de Marouane qui semble traîner un mal-être, une incompréhension, qui a du mal en fait à trouver sa place et encore plus une fille.
T'inquiète pas, j'ai rien dit aux parents pour la nuit dernière.
Comment ça pour la nuit dernière ?
On ne s'est jamais croisés, si ? J'étais interrogée par la police. Oscar, il était bourré, on s'embrassait. Puis j'ai dit stop.
On le cherche de partout, sa mère est en PLS.
Oscar, il s'est baigné hier soir.
Je crois, oui.
Si tu sais quelque chose, faut me le dire, d'accord ?
T'as eu un différend avec lui ?
Avec Oscar, on était ni amis ni ennemis. On se connaît pas, quoi.
Le film va changer d'envergure à la faveur d'un drame dont Marouane sera partie prenante sans en être le responsable direct. Je vais taire cet événement, hein, pour préserver le suspense, qui n'est pourtant pas mis en scène, hein, au contraire de ce qui va suivre, puisque l'adolescent va prendre sans doute la plus mauvaise décision possible. Et celle-ci, dont le spectateur prend immédiatement conscience, va le ronger durant les 36 heures que nous allons suivre jusqu'à la fin du film. Adaptation d'un roman de Victor Gestin, La Chaleur se faufile entre le thriller introspectif et le teen movie, décrivant les comportements des adolescents lorsqu'ils sont en vacances et livrés à eux-mêmes. Tourné avec des amateurs, le film s'appuie sur un naturalisme qui ne fait jamais tâche, hein, et qui s'éloigne de Romer par des dialogues autrement moins littéraires. Si le réalisateur s'intéresse à son personnage principal, rongé autant par le désir que par la culpabilité, traversé autant par la sexualité que par la mort, hein, il filme aussi les personnages qui l'entourent. Il y a les adolescents comme son copain, hein, comme, qui semble être son contraire, cherchant des explications à tout, toujours volontaire. Il y a aussi cette belle italienne, hein, qui représente normalement le défi inaccessible cible des vacances, mais dont Marwan va parvenir à bouleverser le cœur en lui faisant écouter Wagner sous 35 degrés. Il y a enfin les parents que l'on sent vaguement insouciants, éloignés de leur progéniture, mais après tout, ce sont les vacances et le lâcher-prise.
Faites détendre un peu, hein, ça te fera pas de mal. Si vraiment il avait voulu disparaître, c'est pas dans l'eau qu'il faut aller le chercher.
C'est peut-être juste une fugue.
Une fugue. Les vacances, c'est pas comme les restes de l'année, tu comprends?
Aux abords de Mimizan, dans les Landes, nous allons voir Marwan expérimenter ce passage vers l'âge adulte. Lui qui va quitter l'adolescence se distingue justement des autres par ses envies. Les autres boivent, hein, lui non, ils font la fête, lui rentre dans sa tente, même avant ses parents. Il semble prisonnier d'un brouillard mental qu'il sidère, forcé malgré tout d'avancer en raison de l'acte qu'il a commis et dont je n'ai toujours pas révélé la gravité. La mise en scène accompagne cet enfermement du personnage, privilégiant peu à peu des sonorités plus étranges au détriment des bruits estivaux et éclairant la nuit de la seule lumière de la lune. Alors l'affiche, elle en dit long, hein. On voit Marwan de dos en t-shirt regarder courir une dizaine d'adolescents en maillot de bain devant lui et qui vont vers la mer et ses vagues. Ce film, La Chaleur, est en salle depuis le 8 juillet. Le chef-d'œuvre Vengeur de Quentin Tarantino renaît dans sa version intégrale réunissant les deux chapitres en une seule fresque spectaculaire. Nous parlons de Kill Bill, The Wall Brody Affair.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Il aura fallu attendre plus de 20 ans pour que Kill Bill, The Wall Brody Affair arrive enfin sur nos écrans occidentaux. Alors à l'origine, Quentin Tarantino n'avait jamais imaginé de film, mais un seul, et c'est ce montage, augmenté d'une séquence d'animation inédite et d'un entracte, qui est enfin projeté en salle chez nous et qui permet peut-être de mieux comprendre ce qu'est réellement cet OVNI, hein, cet objet filmique non identifié.
Paimei t'a enseigné la technique des 5 points et la paume qui font exploser le cœur, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Pourquoi tu me l'as pas dit?
J'en sais rien. Parce que je suis pas quelqu'un de bien.
Non. Tu ne peux pas dire ça. Tu es quelqu'un de formidable. Tu es ma préférée, et de loin. Même si c'est vrai, quelquefois... Tu peux être une vraie chienne.
À première vue, le film ressemble à un immense pot-pourri bisseux. On y trouve du shambara japonais, du western spaghetti, du kung-fu hongkongais, du polar italien, de l'animation, des mangas, de la blaxploitation, des musiques recyclées, des cadrages empruntés à des dizaines de réalisateurs. C'est un peu comme un collage pop-art, presque warholien, où chaque image semble prélevée ailleurs. Mais chez Tarantino, la référence n'est jamais une fin en soi. Contrairement à beaucoup de cinéastes qui citent pour faire un clin d'œil au spectateur, lui déplace les scènes qu'il aime vers un autre territoire. Il les réécrit, les recontextualise et leur donne une nouvelle fonction dramatique. Les emprunts servent toujours la narration, les personnages ou l'émotion, et Kill Bill est probablement le meilleur cas d'école de cette manière de faire. Cette ressortie permet aussi au public occidental de découvrir un détail longtemps réservé aux spectateurs asiatiques, la fameuse séquence du massacre des 88 fous qui est présentée en couleur. Pendant des années, nous ne l'avons connu qu'en noir et blanc, un choix imposé pour contourner certains problèmes de classification, alors sous-entendu la censure. Redécouvrir cette scène dans sa version originale change profondément sa perception. Elle retrouve son caractère opératique typiquement asiatique où l'hémoglobine devient un élément graphique autant que narratif. Comme un DJ qui créerait une œuvre nouvelle à partir de milliers de samples, Tarantino transforme la mémoire du cinéma populaire en un objet inédit. Avec 20 ans d'avance, il annonçait aussi notre époque où les remakes, les reboots et le recyclage sont devenus la norme absolue. Alors la différence, c'est que lui est recyclé avec une certaine vision autorisante, un peu comme John Woo relisait Melville et son samouraï avec le syndicat du crime et The Killer, ou Brian De Palma avec les motifs du cinéma d'Hitchcock. Et derrière le plaisir ludique des citations l'émission se cachait une immense déclaration d'amour au cinéma de genre qu'il faisait entrer en douce dans les multiplexes, tel un véritable cheval de Troie. Le grand public venait voir un film d'auteur, donc signé Tarantino, et repartait sans toujours le savoir avec des fragments de dizaines de films de série B voire Z, italiens, japonais ou hongkongais, gravés dans la mémoire des cinéphages. C'était l'apogée d'un cinéma postmoderne qui avait germé dans les années 90 en prouvant qu'un film pouvait être constitué presque entièrement de souvenirs de cinéma, tout en devenant lui-même un souvenir de cinéma que personne n'avait encore vu et qui allait devenir à son tour un marqueur culturel de référence.
Ce film de Quentin Tarantino est en salle depuis le 8 juillet. Un drame poignant qui suit plusieurs destins liés par une même traversée où chaque décision peut faire basculer une vie. Nous parlons du passage.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Les migrants ou les migrations sont des thèmes récurrents du cinéma et c'est souvent sous l'angle du drame que le récit s'impose. Et c'est aussi le parti pris de Brent Andersen qui signe Le Passage, dont le titre original est I was a stranger, donc j'étais un étranger. Allez donc savoir pourquoi ce titre a encore été changé. Le film use d'une narration kaléidoscopique et fonctionne par segments qui s'achèvent tous sur un cliffhanger ayant sa résolution ou non dans les segments suivants. Il faut admettre que c'est assez habile, c'est une manière d'avancer dans le récit avec de l'attention.
C'est beaucoup trop dangereux de rester ici.
Et allez, dépêchez-vous!
On va quitter cet endroit pour de bon.
Dans combien de dodo?
À toi de me dire, où est-ce qu'on irait?
Un endroit avec de la pizza.
Tout commence à Chicago dans un hôpital avant que nous basculions en Syrie dans un hôpital qui reçoit les blessés, qu'ils soient d'un camp ou d'un autre, ce qui n'est pas sans poser de problème. Le personnage qui importe, c'est une médecin radiologue que nous suivons dans sa famille pour un repas d'anniversaire avant qu'un drame ne la pousse à fuir le pays, ce que nous verrons dans une future séquence. Car avant celle-ci, nous suivons l'aveuglement et la cruauté des soldats proches du pouvoir syrien qui n'hésitent pas à faire des exécutions en pleine rue, y compris à tuer des enfants qui ont eu le malheur d'écrire des graffitis anti-gouvernementaux. Le personnage que nous suivons dans ce segment est un soldat dont on sent qu'il est mal à l'aise avec cette politique meurtrière. Parmi les moments clés, il y aura pour cette femme médecin et sa fille le passage de la frontière et la traversée sur la Méditerranée entre la Turquie et la Grèce. L'un des segments les plus forts est celui qui suit le passeur incarné par Omar Sy, un être parfaitement détestable qui ne manque aucune occasion de montrer le peu de cas qu'il fait de l'humanité. Alors ce n'est pas par amour évidemment de son prochain qu'il est passeur, mais bien pour l'argent et puis pour émigrer lui aussi aux États-Unis, là où il y a des pizzas, car c'est l'un des critères de son fils. Ce rôle antipathique est un choix courageux quand même pour Omar Sy, car il n'est jamais vraiment aimable sauf quand il est avec son fils.
On ne quitte pas des yeux, d'accord?
Alors, je vous propose un aller simple pour la Grèce.
Entrez-vous immédiatement!
Je vous donne ce qui a le plus de valeur pour vous. Est-ce que je peux vous confier ce qui compte le plus pour moi?
Qui traverse, qui coule, et paie la même chose.
Les enfants d'abord!
Les enfants ont une importance capitale dans ce film Le Passage. Ils sont présents dans tous ces segments avec à chaque fois des parents qui tentent de les protéger et chaque fois ils sont spectateurs d'une forme de cruauté des adultes. C'est là un ressort dramatique sur lequel appuie peut-être un peu trop fort le réalisateur. Il y a par exemple une séquence où les migrants s'arrachent le peu de gilets de sauvetage mis à disposition. Mais là, il n'est plus question des femmes et des enfants d'abord, c'est chacun pour soi. Il y a presque une fonction documentaire de ce segment qui nous emmène du trajet des migrants jusqu'au bateau et à la traversée de la Méditerranée dans l'orage.
Papa, tu peux rester.
Ça va aller.
La séquence la plus étonnante est probablement celle qui se déroule en Grèce avec les gardes-côtes et notamment un capitaine qui a beaucoup de mal à accepter de ne pas pouvoir sauver tous ces hommes et femmes qui meurent en mer. Cette séquence fait apparaître aussi le point de vue occidental sur les migrants. Il fait tout lui, ce capitaine, pour les sauver, ces migrants, jusqu'à sauter à l'eau au péril de sa vie. Et dans ce segment, qui est l'avant-dernier, on est là moins dans le documentaire que dans un récit dramatique de sauvetage où les plus faibles sont menacés. C'est sûrement la limite de ce film qui parvient à faire des séquences impressionnantes, comme une explosion d'appartement, mais qui, passé la stupéfaction, va chercher le mélodrame, tout en restant malgré tout bien cramponné à une image portée par la caméra à l'épaule. Dans le dernier segment, l'émotion s'estompe et le récit prend une tournure sensible et politique assez subtile. Et malgré quelques imperfections, ce film, Le Passage, volontiers coup de poing, a remporté le prix du public du Festival de Deauville. Et ma foi, si le public a plutôt aimé, vous pourriez vous aussi être bien intéressé. Il est en salle depuis le 8 juillet.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui !
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
Nous nous retrouvons la semaine prochaine encore avec les séries estivales et nous reparlerons de John Carpenter. Mais nous parlerons aussi d'un film qui a remporté un prix à Cannes, L'Aventure rêvée, et puis du dernier Christopher Nolan, L'Odyssée. À la semaine prochaine.